propose de commencer pour ne pas terminer les deux séances samedi matin de bonne heure. Bien. En tous les cas, merci de votre présence pour un conseil municipal particulier, puisqu'il va se dérouler en deux séances. La première donc concerne l'élection des grands électeurs pour donc les prochaines élections sénatoriales qui auront lieu en septembre. Donc on n'avait pas le choix de la date puisque c'est imposé. Donc tous les conseils municipaux concernés par l'élection, puisque ce n'est pas tous les départements qui élisent les sénateurs, mais au moins les départements concernés par l'élection sénatoriale, donc votent aujourd'hui. Donc les grands votants, enfin les votants, les électeurs du moins, je vais y arriver. Mais avant cela, donc nous accueillons donc Camille Fresneau. Bienvenue parmi nous à ce conseil municipal. Mais avant de vous passer la parole, je voudrais remercier Pierre qui est là encore caché. Donc Pierre, je voulais justement saluer ton engagement depuis maintenant plus de 20 ans. Hein, donc tu es rentré au conseil municipal en mars 2001. Comme conseiller municipal, et puis assez très rapidement, donc tu as pris des fonctions d'adjoint, donc enfance et jeunesse, vie associative et loisirs et au sport, et puis le dernier mandat en tant qu'élu majoritaire, donc adjoint à la famille, jeunesse et l'éducation. Par ailleurs, tu as été aussi délégué à la Compa, et puis aussi vu dans les différents conseils d'école, donc notamment Sévigné. Donc voilà, moi je voulais vraiment te saluer ton esprit très constructif et collaboratif. Je crois que j'ai apprécié d'échanger, de travailler avec toi, même si nous n'étions pas dans la même équipe. Mais en tous les cas, je voulais le saluer. Puis je crois que c'est partagé par l'ensemble de mes collègues. Donc tu as démissionné parce que tu t'es engagé dans de nouvelles missions, de nouveaux engagements, puisque tu as été élu président de l'association Habitat Jeune 44. Niveau régional, niveau Pays de Loire, pardon Pierre, Pays de Loire. Donc voilà, donc bah, écoute, grand remerciement pour tes 22 ans d'engagement pour la commune d'Ancenis-Saint-Gérion, et puis je te souhaite un vif succès pour tes nouveaux engagements. Voilà, merci Pierre. Tu veux peut-être dire un petit mot? C'est la tradition, hein, quand on arrive comme ça.
Oui, je vais me présenter un petit peu. Donc, Camille Fresneau, j'ai 41 ans, je suis ingénieure territoriale. Je travaille dans le domaine de l'aménagement de l'espace public et des mobilités, dans une collectivité non loin d'ici. Je suis originaire du pays d'Ancenis. Ça fait 14 ans que j'habite dans le secteur de Saint-Gérion. J'ai été de nombreuses années dans l'association de parents d'élèves de l'école de mes enfants, de mes filles. Et donc, c'est naturellement que j'ai choisi de rejoindre Pierre Landrin sur sa liste, puisque je partageais pleinement ses idées, et puis je souhaitais continuer à m'impliquer et à participer à la vie de ma commune. Donc, je suis forcément très enthousiaste et très fière de prendre sa suite, et au sein de l'équipe de la minorité, et aussi de continuer à créer du lien pour faire ensemble en tant que nouvelle chef de file. Notre équipe a à cœur de défendre nos valeurs pour le bien de l'ensemble des habitants de notre commune, et donc nous allons continuer à contribuer par nos propositions et nos remarques à l'avancée d'un certain nombre de dossiers avec sérieux et toujours à l'écoute des préoccupations des habitants d'Ancenis-Saint-Gérion. Nous veillerons également à ce que les sujets verts, certes incontournables, ne fassent pas oublier les besoins de tous et de chacun, chacune des habitants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, la jeunesse, les commerçants, etc., et que tous les points de vue soient entendus comme il se doit dans une démarche participative. Enfin, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que le monde évolue et change plus vite que la forme de la ville et que le fonctionnement de nos collectivités. C'est donc un défi de réussir à répondre à tous les besoins quotidiens des habitants et en même temps de s'inscrire et d'inscrire nos choix dans un temps long avec une vraie vision à long terme. Merci.
Merci. Bien. Eh bien, écoutez, on va donc procéder à l'élection. Alors, il faut que je fasse un appel. Alors, donc, Rémi Auron, donc je suis là, Mireille Loira, Gilles Rambeau, Fanny Lejalais, Florent Caillet, alors, Bruno de Cargemaux, Laure Cadorel, André Janviot, Mélanie Cotineau, Ronan Carvadec, Marine Moutel-Cochet, alors Sébastien Prodhomme n'est pas arrivé, Christine Ramirez, ah oui, donc elle a donné pouvoir à Laure Cadorel, Anthony Mortier, Johanna Allaire, Olivier Honneau, Katharina Thomas, Arnaud Bouillet, Sylvie Onillon, Bruno Fouché a donné son pouvoir à Patrice Goud, Karine Mathieu, Fabrice Rizier, Isabelle Bourse a donné son pouvoir à Jean-Noël Griffiche, Patrice Goud, Vivien Branchereau, Jean-Noël Griffiche, Julie Aubry, Olivier Binet, Séverine Lenoble, Nicolas Raymond, Cécile Bernardoni, Nabil Zeroual, il n'est pas arrivé, il va arriver, Sarah Rousseau et Camille Frénaud, et j'ai oublié de citer donc Myriam Rialet, qui a donné un pouvoir. Non, pardon. Alors, Myriam, elle n'a pas donné de pouvoir. Donc, Sébastien Prodhomme a donné pouvoir à Marine Moutel-Cochet. Pardon. Donc, le co. Mais on ne l'a pas reçu. Ah, on ne l'a pas. Tu ne l'as pas par mail ?
Par mail.
Ah, si tu as déposé en papier ? Bah oui, mais on ne prend pas. Bien, donc le quorum est atteint. Alors, nous allons donc désigner les membres du bureau. Donc, les membres du bureau, ils constituaient donc du maire. Les deux plus jeunes, alors les deux plus jeunes, j'ai les dates de naissance. Donc, il y a Katharina, voilà, et puis, je ne l'ai plus. Ah oui, mais Nabil, il n'est pas là. Ah, mais bon. Ah, bah oui, alors je l'ai là. Florent Caillet ? C'est pas vrai ? Donc Florent Caillet. Non. C'est Florent et Katharina pour les plus jeunes. Et puis pour les plus anciens ou les moins jeunes. Donc, Bruno de Cargemaux et Gilles Rambeau. Voilà, c'est noté. S'il vous plaît, un peu de silence. Donc, je vais rappeler donc le mode de scrutin. Donc, en application des articles L289 et R133 du Code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants, article 286-1 du Code électoral. Les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent pas être délégués ou suppléants. Article L287, L445 et L556 du Code électoral. Donc, je participerai au vote, mais je ne suis pas candidat puisque je vais voter pour en tant que conseiller départemental. Conformément aux articles L284 à L286 du Code électoral, le cas échéant l'article L290-1 ou L290-2, le conseil municipal devait élire 22 délégués et 7 suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète, article L289 du Code électoral. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Alors donc, nous avons deux listes. Donc, liste Ancenis-Saint-Gérion, une ville en transition, avec 27 candidats. Et puis, donc, la liste Tisson, en tout, il y a... En tout, ça fait 24. Oui, 24, pardon. Pardon. Et la liste Tissons des liens qui nous rassemble, donc 7 électeurs, donc 7 candidats. C'est plus, alors, après vérification, c'est Vivien Branchot, le plus jeune. Ce n'est pas Florent. Bien. Donc, il faut un secrétaire, donc Vivien.
Non, il est assesseur.
Ah, pardon, un secrétaire, pardon, je suis perdu. Qui veut être secrétaire? Dans la minorité, peut-être, parce que là, il n'y a que des... D'accord, Nicolas. Voilà, donc nous allons procéder donc au vote. Alors, si vous souhaitez mettre votre bulletin dans une enveloppe... Non? Voilà. Bon, ok. Donc, je vais vous... comment ? Donc, Myriam Rialet vient d'envoyer le pouvoir à Olivier Ono, donc pris en compte. Donc, je vais appeler donc les électeurs. Et vous, donc, lui, on est ici. Il faudra la mettre devant les membres du président. Ouais. Bien.
Ah oui, c'est pour pouvoir, il vote.
Si. Bah si, il vote pour les deux. Oui. S'il vous plaît. Donc. S'il vous plaît. Donc ceux qui ont un pouvoir votent pour... la personne qui lui a donné le pouvoir. Donc deux fois. C'est bon ? S'il vous plaît. Donc on commence. Donc Rémi Auron a voté. Mireille Loira. A voté. Gilles Rambeau. Fanny Lejalais, Florent Caillet, donc Olivier Ono pour Myriam Rialet, Bruno de Kergomo. Laure Cadorel. André-Jean Viau.
Ah oui.
Mélanie Cotineau. Renan Kervadec, Marine Moutel-Cochet, et donc Sébastien Prodhomme te donne le pouvoir, donc tu peux voter pour Sébastien Prodhomme. Laure Cadorel donne pouvoir à Christine Ramirez. Non, pardon.
Parce que moi, j'ai déjà voté.
Anthony Mortier. Johanna Allaire. Olivier Honneau. Katharina Thomas. Arnaud Bouillet. Sylvie Onillon. Patrice Goud pour Bruno Fouché. Karine Mathieu. Fabrice Rizier. Jean-Noël Griffich pour Isabelle Bourse. Patrice Good. Ah, pardon. Parce que d'habitude, c'est de ce côté-ci, je ne sais pas pourquoi. Vivien Branchereau. Jean-Noël Griffich. Julie Aubry. Olivier Binet. Séverine Lenoble. Nicolas Raymond. Donc Nicolas Raymond pour Nabil Zerwal, si, non? D'accord. Donc Cécile Bernardoni. Alors, pour Nabil. OK. Cécile Bernardoni, Sarah Rousseau et Camille Fresneau. Je vais donc vous communiquer le résultat et donc les noms des élus délégués et élus suppléants. Donc, délégués, Gilles Rambeau, Mireille Loira, Florent Caillet, Fanny Legellet, Bruno Le Cargemeau, Myriam Rialet, André Janviot, Laure Cadorel, Renan Carvadec, Mélanie Cotineau, Sébastien Prodhomme, Marine Moutel-Cochet, Olivier Honneau, Katharina Thomas, Arnaud Bouillet, Karine Mathieu, Bruno Fouché, Julie Aubry, Séverine Lenoble, Olivier Binet, Cécile Bernardoni, Nicolas Raymond. Voilà. Ensuite, les suppléants. Patrice Goud, Isabelle Bourse, Jean-Noël Griffiche, Christine Ramirez, Vivien Panchereau, Johanna Allaire et Sarah Rousseau. Donc voilà, donc les membres du bureau et le secrétaire, si vous pouvez venir, signer. Donc avant de partir, il faudra signer un PV. Bien, eh bien écoutez, la première séance est close. Donc voilà, on a un petit peu de retard. C'est à 15. Dans la foulée, je vous propose d'ouvrir la deuxième séance du conseil municipal par la désignation donc, des secrétaires de séance. Donc, pour la majorité, Bruno de Cargemeau. Pour la minorité, secrétaire de séance, Cécile Bernardoni. Les pouvoirs, donc, ce sont les mêmes que tout à l'heure, sauf que Anthony, tu vas partir. Voilà. Et puis Nabil, il arrive, non ? Ah, j'ai pas vu, excuse-moi. Bien. Concernant le procès-verbal du dernier conseil municipal du 28 mars, est-ce qu'il y a des remarques particulières, des questions ou demandes de précision ? Non. Donc, le procès-verbal est approuvé. Il n'y a pas d'informations particulières à vous faire part. Donc on va commencer par la première délibération qui est une motion de soutien à Yannick Morez, maire de Saint-Brévin, maire démissionnaire, et pour dire stop aux violences faites aux élus. Donc c'est une motion qui est proposée par l'association des maires de Loire-Atlantique. Donc je vais vous la lire, elle est un peu longue, je suis désolé, mais c'est quand même un sujet important. La communauté des maires, des présidents de l'intercommunalité et des élus locaux de Loire-Atlantique, unis, souhaite rendre hommage à leur collègue maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, qui a pris la lourde et douloureuse décision de démissionner de son mandat et de quitter sa commune de cœur. Sa décision a été prise à la suite de l'incendie criminel qu'il a subi et sous la pression de menaces intolérables et quotidiennes d'opposants au centre d'accueil de demandeurs d'asile. Au-delà de la forte émotion suscitée par cette violence extrême, nous voulons rappeler l'urgence à protéger les élus locaux de la République et de dire collectivement stop. Stop aux ennemis de la démocratie locale et de la République. Cette nouvelle agression est un révélateur de l'impuissance publique croissante et de la montée de la violence dans notre société. Tags insultants sur les murs de nos mairies ou de nos maisons, harcèlement sur les réseaux sociaux, menaces de mort, agressions physiques, outrages, insultes et maintenant incendies criminels. Ensemble, Les élus des communes et intercommunalités de Loire-Atlantique, nous souhaitons dénoncer ces agissements contraires à l'exercice de la démocratie. Ces ennemis de la démocratie préfèrent le despotisme, de la violence et de la force. Ces ennemis de la démocratie préfèrent l'égoïsme à la volonté générale. Ces ennemis de la démocratie méprisent notre mandat local qui nous a été confié par nos citoyens ou concitoyens. Ces ennemis de la démocratie préfèrent la haine à la liberté d'expression, au respect d'autrui et à la tolérance. Jusqu'ici, la démocratie locale restait à peu près préservée. Aujourd'hui, les violences faites aux élus locaux ne cessent d'augmenter. Il y a les agressions externes, mais aussi internes, à nos conseils municipaux, alimentées par un débat démocratique national de plus en plus déplorable et violent. Nous appelons à retrouver rapidement et collectivement le chemin d'une démocratie apaisée, respectueuse et exemplaire. Ces violences sont aussi renforcées par le sentiment d'impunité des auteurs d'agressions, avec en cause la lenteur de la justice et l'absence de poursuites pénales par manque de moyens. Même si le maire reste l'élu préféré, car il est un habitant parmi les habitants, confronté plus que quiconque au quotidien des Français, cette impunité a pour conséquence directe de nuire à notre fonction et désacralise notre mandat de maire et d'élu local. Et les rares fois où il y a eu une condamnation, les peines appliquées ne sont pas à la hauteur. La souffrance des élus locaux n'est pas acceptable, comme celle de leurs familles, qui aussi subissent ces violences. La santé mentale et psychologique des élus doit être prise aussi au sérieux, comme pour toute victime, avec la nécessité d'un accompagnement psychologique adapté et financé par l'État. Par cette motion, nous ne demandons pas un traitement de faveur, mais tout simplement une justice rapide, dissuasive et réparatrice. Agresser un maire ou tout élu issu du suffrage universel, c'est aussi s'attaquer aux valeurs fondamentales de la France, la démocratie, la République et nos institutions. Plus largement, nous restons profondément convaincus que toutes les missions du service public sont en danger si nous ne luttons pas plus fortement contre toutes ces agressions envers nos enseignants, nos sapeurs-pompiers, notre police ou la gendarmerie, nos personnels de santé, mais aussi nos CCAS, nos agents municipaux pour lesquels nous demandons plus de respect à tous nos concitoyens. La tolérance zéro doit être appliquée. La montée de la défiance envers les élus locaux est aussi renforcée par l'attitude consumériste de nombre de citoyens en tant que consommateurs de services publics. Le maire était auparavant considéré comme un mandataire social, gérant les affaires de la cité au nom de l'intérêt général. Il se retrouve désormais aux prises avec les citoyens qui, pour certains, exigent de lui qu'il manage la commune et pour d'autres, qu'il rende des comptes tout le temps et en toute transparence. Nous avons ici un vrai défi de société à résoudre et une véritable pédagogie à développer sur la notion d'engagement au service de l'intérêt général. Enfin, nous renouvelons aussi notre appel à mener un travail conjoint avec l'exécutif et la justice pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Entre la prévention et le suivi pénal, tout doit être mis en œuvre. C'est désormais une urgence absolue. La conséquence directe de ces violences, de la complexité grandissante de la fonction de maire ou encore de ces attitudes consuméristes, est une explosion des démissions des élus locaux. En France, on dénombre déjà plus de 1300 maires démissionnaires et sur le département de Loire-Atlantique, près de 1050 élus communaux, tous confondus, maires, adjoints et élus locaux ont rendu leur écharpe tricolore. C'est inédit et très inquiétant. En comparaison, avec le mandat précédent de 2014 à 2020, 890 missions avaient été enregistrées en 6 ans. Avec cette hémorragie, c'est bien la démocratie locale qui est en danger et la situation ne cesse de s'aggraver. Sans élus, il n'y a plus de démocratie. Alors, nous disons stop, ensemble, aux anarchistes, aux extrémistes et à toute violence contre la démocratie et les élus locaux. Mais, dès ce jour, nous réitérons publiquement notre plein et entier soutien à Yannick Morez. Encore une fois, rien ne justifie cet acte extrêmement grave. Toutes les associations d'élus sont à la disposition du maire, comme de tout élu visé par une agression, pour le soutenir plus que jamais dans cette épreuve. Nous espérons aussi que les pouvoirs publics, tous unis, du préfet, du sous-préfet, à toutes les instances de l'État et de la justice, à nos forces de sécurité, accompagnés de nos sénateurs et de nos députés, sauront apporter les réponses et prendre les mesures pour que notre démocratie ne soit plus mise à mal par le comportement de certains, y compris sur les réseaux sociaux. Est en jeu la pérennité de nos services publics et de nos communes pour que celles et ceux qui les font vivre continuent à s'y investir avec le même dévouement. Donc voilà la motion proposée par l'Association des maires de Loire-Atlantique. Mais avant de vous proposer, de vous inviter à adopter cette motion, je voudrais aussi féliciter Madame Paco, Dorothée, qui, en même temps que nous sommes là aujourd'hui, ce soir, doit être élue à l'unanimité, selon mes informations. Donc je souhaitais apporter mon soutien et puis surtout saluer son courage, alors même qu'elle a déjà reçu des menaces chez elle ou en mairie. Alors, moi je vous propose de nous lever pour une minute d'applaudissement en guise de soutien et de reconnaissance pour son engagement. Merci pour elle. Pas d'expression, je demande d'expression, je propose donc de passer au vote, donc qui est pour adopter cette motion, qui s'abstient, qui est contre, donc motion adoptée à l'unanimité, merci. Alors, autre délibération donc porte sur la proposition d'un vœu contre les déserts médicaux. Donc, il y a quelques mois, donc fin mars, nous avons reçu des représentants du groupe transpartisan qui a travaillé sur une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Depuis, ils ont fait le tour de la France. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui peu d'écoute de la part du gouvernement, même si dans le cadre des débats, à l'Assemblée cette semaine, on peut noter quelques avancées, et notamment des avancées qui portent sur la question de la régulation des médecins, puisque, a priori, un amendement porté par le groupe transpartisan a été accepté, et qui empêche l'installation de médecins sur des territoires largement pourvus. Donc c'est une avancée à souligner. Néanmoins, je pense qu'il est important aussi que ce groupe partisan soit soutenu par des collectivités territoriales. Donc il y a eu déjà plusieurs collectivités ou conseils municipaux qui ont adopté ce vœu, et notamment le conseil départemental le 13 avril dernier. Donc, je vous propose de lire ce vœu. Donc, au moins 8 millions de Françaises et de Français vivent dans un désert médical. En France, le département le mieux doté compte 3 fois plus de médecins généralistes par habitant que le département le moins bien doté. Cet écart monte à 4 pour les chirurgiens dentistes, à 18 pour les ophtalmologues, et à 23 pour les dermatologues et 33 pour les pédiatres. Je crois qu'il manque sur l'exemplaire que j'ai aussi un chiffre. Donc, de plus de 13 départements sont aussi sans aucun gynécologue. Le pays d'Anceny compte 5,1 médecins pour 10 000 habitants, contre 9,8 en Loire-Atlantique et 8,4 à l'échelle régionale. 6,7 infirmières et ou infirmiers pour 10 000 habitants, contre 8 pour 10 000 habitants à l'échelle du département. 4,3 chirurgiens dentistes pour 10 000 habitants contre 5,8 en Loire-Atlantique. Quand les déserts médicaux avancent, les inégalités se creusent. À ce jour, malgré la mobilisation continue des collectivités depuis des années, aucune politique publique n'a véritablement réussi à apporter des réponses durables à la désertification médicale. Les mesures incitatives sont coûteuses, peu efficace et favorise la concurrence et la surenchère souvent délétère entre les territoires. Face à l'urgence, il est plus que jamais nécessaire de mettre l'ensemble des solutions possibles sur la table. En janvier dernier, plus de 200 députés issus de 9 groupes parlementaires ont déposé une proposition de loi transpartisane qui propose de réguler l'installation des médecins dans les territoires pour mieux les répartir, comme cela existe déjà pour les pharmaciens, les sages-femmes, les kinés, les infirmiers libéraux. Ce texte avance en outre des réponses concrètes pour démocratiser l'accès aux études de médecine et améliorer l'exercice des soins afin que chaque Français ait accès à un généraliste, à un spécialiste, à un chirurgien-dentiste près de chez lui. Il est donc nécessaire pour nos concitoyens et nos territoires qu'un débat de fond ait lieu au Parlement sur cette question cruciale. La commune d'Ancenis-Saint-Gérion forme le vœu que ce texte de loi soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ou tout du moins que les propositions soient débattues à l'Assemblée et que le débat parlementaire permette son vote dans les meilleurs délais. Voilà, donc est-ce qu'il y a... Oui, allez-y.
Je vais reprendre un petit peu. Nicolas Raymond pour la minorité. La question des déserts médicaux est vieille de plusieurs décennies. Il y a 50 ans, lors du 18e congrès national de la médecine rurale à Avignon, la sonnette d'alarme est déjà tirée par les praticiens. Aujourd'hui, le constat est sans appel. Le pays manque cruellement de médecins et cela ne risque pas de se résoudre dans l'immédiat. Les départs à la retraite des médecins généralistes, spécialistes, la baisse d'attractivité de la médecine générale et les décennies de la régulation du nombre d'étudiants en médecine sont parmi les causes de la multiplication des déserts médicaux. Forcé de constater que malheureusement notre territoire n'échappe pas à cette désertification, il devient très difficile de se faire soigner par un professionnel de santé en raison de l'absence de médecins de proximité. Cette situation traduit une inégalité territoriale dans l'accès aux soins et peut s'avérer dangereuse pour la santé de la population locale. À cela s'ajoutent les difficultés que connaissent les hôpitaux publics, notamment celui de notre commune. Dans ce contexte, après l'épreuve de la Covid, nous tenons ici à remercier et saluer l'engagement quotidien de nos soignants. Bien sûr, nous partageons et encourageons la proposition de loi transpartisane, mais nous sommes également conscients que ce vœu ne se traduira pas dans l'immédiat par des résultats concrets sur le territoire. Nous vous rejoignons sur le souhait que la proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et fasse l'objet d'un débat. Nous encourageons également l'ensemble de nos territoires à s'inscrire dans cette démarche.
Merci. Vous avez évoqué donc l'hôpital public, donc centre hospitalier Erdre-et-Loire. Donc c'est vrai que moi, je voulais aussi souligner l'engagement de la directrice, du docteur Courtois et de ses collaborateurs et collaboratrices hein, pour trouver des solutions. Nous avons, le CHEL a recruté 4 anesthésistes maintenant il y a un mois, et peut-être, 3 anesthésistes, pardon, et peut-être un quatrième. Donc, ça fait longtemps que on aura un effectif aussi important, qui n'est pas suffisant, mais aussi important que ça. Et puis, on a des raisons d'espérer que, bonnes raisons d'espérer que, en novembre, nous puissions aussi recruter donc 3 urgentistes. Voilà, donc c'est grâce, donc bien entendu, à l'engagement de la direction, des professionnels de la santé, mais également aussi de la mobilisation citoyenne, donc et puis de la mobilisation politique de nous, hein, notamment avec le vœu donc, que nous avions adopté en conseil municipal, et fort de ces différents vœux adoptés par l'ensemble des communes du pays de l'Ancenis, j'avais donc envoyé un courrier au ministre, et vous l'avez reçu, hein, je crois qu'on vous l'a envoyé, donc la réponse du ministre. Bon, on ne peut pas s'attendre à plus, hein, vu effectivement les effectifs, mais ce qui était important, c'est qu'il puisse aussi, lui, constater que, et confirmer que l'hôpital à Ancenis est une structure essentielle pour l'accès à la santé de proximité sur le territoire de Loire-Atlantique. Donc voilà. Donc c'est effectivement important que ça vienne du ministre. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer donc au vote donc pour ce vœu. Donc qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc vœu adopté à l'unanimité. Merci. Alors, c'est encore moi. Alors, donc, le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes concernant la COMPA. Alors, je ne suis pas habilité par le président à répondre à certaines questions, si vous avez des questions. Mais c'est la règle, on doit aussi présenter une délibération en conseil municipal, sachant que lors de la séance du 30 mars dernier, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Ancenis a débattu sur le rapport d'observation définitive sur sa gestion rendue par la Chambre régionale des comptes, couvrant les exercices de 2017 et suivants. À la suite de cette présentation, ce rapport doit être soumis au conseil municipaux des communes membres de la communauté de communes dans leur plus proche séance. Donc, il y a eu quelques recommandations, comme tout rapport de la CRC. Il y a eu 5 préconisations dont le président a répondu. Donc, vous retrouverez les réponses dans le compte-rendu du conseil communautaire que vous avez dû normalement recevoir. Donc, voilà, donc est-ce qu'il y a des demandes de précision ou au moins d'intervention sur ce rapport? Non. Vous l'avez tous lu, j'imagine, 140 pages, je crois. 163 pages. Gilles l'a lu. Bien, eh bien, je vous propose, il faut pas voter, il faut prendre acte donc de ce rapport. Donc prenons acte de ce rapport, n'est-ce pas? Donc voilà, merci. Alors, suite à la démission de Pierre Landrin et donc l'installation de Camille Frénaud, donc il nous faut apporter des modifications dans la composition des commissions permanentes, non permanentes et de délégation et de représentation. Donc la parole est à Mireille Loira.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, en raison de l'arrivée de Camille Frénaud au sein de l'Assemblée, le conseil municipal doit voter la nouvelle composition des commissions municipales permanentes. Il est convenu que cet élu remplacera l'élu démissionnaire dans les commissions dont il faisait partie. J'ai pas la dernière version, donc il y a quelques autres petits changements, donc ce n'est pas exactement un remplacement place pour place. Voilà, donc je vais lire l'écran. Donc, au niveau de la commission transition écologique, mobilité et démocratie locale, les titulaires à présent sont donc moi-même, Arnaud Bouillet, Katharina Thomas, Sébastien Prodhomme, Fabrice Cerisier, Camille Frénaud et Séverine Lenoble. Pour la commission Finances, Ressources humaines, Tranquillité publique, les titulaires sont Gilles Rambaud, Johanna Allaire, Arnaud Bouillet, Bruno Fouché, Sébastien Prodhomme, Sylvie Onillon, Olivier Binet et Camille Frénaud. Pour la commission Scolarité, Jeunesse, Prévention, CME, CMJ, les titulaires sont Myriam Rialet, André Janviot, Olivier Honneau, Katharina Thomas, Julie Aubry, Sarah Rousseau et Nabil Zeroual. Pour la commission consultative des marchés forains, les titulaires sont Laure Cadorel, Christine Ramirez, Patrice Goud, Bruno de Kergomo, Karine Mathieu, Gilles Rambaud, Séverine Lenoble et Olivier Binet. Pour la commission consultative de contrôle de la liste électorale, les titulaires sont Patrice Goud, Bruno Fouché, Sylvie Onillon, Séverine Lenoble et Sarah Rousseau. Et les suppléants sont Sébastien Prodhomme, Christine Ramirez, Anthony Mortier.
La minorité désigne un suppléant, puisque Madame Rousseau, vous étiez suppléante et donc vous remplacez M. Landrin. Donc il faut désigner un suppléant.
C'est une fois par an.
Donc Camille Frénaud, suppléante. Très bien. Et donc Nicolas Raymond. Et c'est tout. Non, il y a un autre diapo. Alors, donc là, vous avez un tableau récapitulant les modifications. Alors, donc ça, c'était pour les commissions municipales permanentes. Et il y a également des modifications de représentation et de délégation. Donc, pour le conseil d'école élémentaire, Madame de Sévigné, considérant donc la démission de Pierre Landrin, le conseil municipal, nous vous proposons de désigner Nabil Zeroual en qualité de délégué pour représenter la ville. Au conseil d'école élémentaire, Madame de Sévigné. Et puis, pour le conseil d'école maternelle, Madame de Sévigné, il vous est également proposé de désigner Nabil Zeroual en remplacement de Pierre Landrin. On a à suivre. Non, c'est bon. Donc ça, c'était pour l'ensemble des commissions, délégations, représentations de la commune. Et le CIVU, c'est une délibération après.
Bien, oui.
Il y avait aussi la commission consultative des impôts directs que j'avais signalé, puisque Pierre était dedans.
Alors, on n'avait pas M. Landrin dans la liste, parce que ça a été désigné en 2020. Donc, il y a une liste qui est présentée, et après, c'est la direction des finances qui choisit, mais nous n'avions pas M. Landrin sur la liste. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas... De toute façon, on doit là, hein, c'est celle-là qu'on doit revoir en septembre. Hein, c'est les élections. Ouais. Donc, au cas où, si on trouve une erreur, on reviendra vers vous en septembre, mais normalement, il n'y a pas d'erreur.
Bien. Tout le monde est d'accord pour cette nouvelle composition. Donc, on va passer donc au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Donc, nouvelle désignation des délégués au CIVU de l'enfance. Donc, Mireille Loira.
Bien, donc nous devons faire la même démarche pour désigner les délégués au CIVU de l'enfance. Donc, ceci conformément au statut du syndicat intercommunal à vocation unique de l'enfance. Donc, on rappelle que les statuts du CIVU de l'enfance disposent que le syndicat est administré par un conseil au sein duquel chaque commune est représentée de la façon suivante. Pour les communes de 1 à 1000 habitants, il y a 2 délégués. Pour les communes de 1001 à 5000 habitants, il y a 1 délégué pour 1000 habitants ou fraction de 1000 habitants. Pour les communes de 5001 à 10 000 habitants, un délégué pour 2500 habitants ou fraction de 2500 habitants. Et à partir de 10 000 et 1 habitants, un délégué pour 5000 habitants ou fraction de 5000 habitants. Et cette règle s'applique à la population totale. Et donc, au regard de la population totale, la commune d'Ancenis-Saint-Géréon dispose de 9 délégués. Et donc, il est proposé que Camille Frénaud soit élue déléguée de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon au CIVU de l'enfance en remplacement de Pierre Landrin.
Bien. Donc, vous êtes d'accord, Camille ? Oui ? Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Merci, Mireille. Nous allons passer donc à plusieurs délibérations qui concernent donc les ressources humaines, à commencer par la modification du tableau des effectifs. Donc la parole est à Johanna Allaire.
Oui, bonsoir. Donc effectivement, la mise à jour du tableau des effectifs est nécessaire pour ajuster les postes permanents en fonction des besoins et de l'organisation des services. C'est pourquoi il est proposé de procéder à la création d'un poste d'assistante administrative en charge de la comptabilité de la commande publique. En effet, suite à la décision de renforcer la cellule administrative de la DSTU après réorganisation de l'entité et de créer également un poste sur le grade d'ingénieur pour permettre le recrutement du nouveau responsable voirie espace public. De plus, nous devons ajuster également le tableau des effectifs afin de procéder à la nomination des agents qui sont concernés par un avancement de grade. Cela concerne donc 7 postes, à savoir l'emploi de la directrice des ressources humaines, l'emploi du responsable des services juridiques et de la commande publique, le coordinateur du secteur ado, le poste d'animateur des temps périscolaires et enfin 3 postes au sein de la filière technique, à savoir le poste d'agent polyvalent d'entretien des temps périscolaires, le poste de jardinier et enfin le poste concernant l'agent chargé de l'entretien et le gardiennage des salles.
Oui, allez-y, Olivier.
Juste une petite question, Olivier Binet, pour la minorité. Quel sera l'impact financier suite à ces modifications d'effectifs, s'il vous plaît ?
Gilles, pour la réponse.
En année pleine, environ 7000 euros. Voilà. Oui, c'est toute charge comprise.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Alors, ensuite, donc dans la catégorie ressources humaines, donc une délibération qui porte sur la désignation d'un référent déontologue des élus locaux, c'est nouveau. Donc la parole est à Johanna Allaire.
Donc l'article L1111-1-1 du Code général de la fonction publique, issu de la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022, prévoit la possibilité pour tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue. L'entrée en vigueur de cet article, le 1er juin dernier, précise qu'il appartient au conseil municipal de désigner ce référent et de préciser ses modalités d'intervention. Il est à noter que le ou les référents déontologues choisis seront tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, les informations ou les documents dont ils auront connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'Association des maires de France de Loire-Atlantique, donc l'ANF 44, a constitué une liste de personnalités qui sont aptes à assurer les fonctions de référent déontologue auprès des élus, sachant que cette liste peut évoluer dans le temps. Donc ce soir, le conseil municipal doit délibérer pour désigner un ou des référents déontologues et préciser la durée d'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Il est donc proposé que le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne en qualité de référent déontologue les membres de la liste précédemment constituée par l'AMF 44. La liste a été annexée à la présente délibération, dans sa composition actuelle et dans sa composition future en cas d'évolution. Décide que les personnes susmentionnées exerceront leurs fonctions pour une durée de 3 ans. Fixe les modalités de saisine du ou des référents déontologues et les conditions d'examen comme suit. Donc la collectivité saisira par tout moyen l'AMF 44 qui se chargera d'affecter un des membres de la liste à l'affaire à traiter. L'AMF 44 mettra en relation le référent désigné avec la collectivité. Si besoin, sur demande du référent désigné ou de la collectivité et en fonction de sa complexité, l'affaire pourra être traitée collégialement avec 2 à 4 autres membres de la liste. Le collège ainsi constitué décidera en son sein de ses modalités de fonctionnement. La collectivité rémunérera directement le référent ou le collège du référent et décidera des moyens matériels mis à disposition. Le conseil municipal décide également que les avis du ou des référents déontologues seront rendus par écrit dans un délai raisonnable et ajustés selon la complexité de la demande. Il décidera également de mettre à disposition du ou des référents un ordinateur de la collectivité et le poste téléphonique fixe en fonction des disponibilités des services, fixera les modalités de rémunération du ou des référents comme telles, donc 80 € par personne et par dossier, 300 € pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée, 200 € pour la participation effective à une séance du collège d'une demi-journée. Le conseil municipal décide que le ou les référents déontologues bénéficieront du remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions qui sont applicables au personnel de la fonction publique territoriale et décide que cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés.
Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non. Donc je propose de passer au vote. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Alors délibération suivante donc porte sur les finances et plus précisément donc la vente aux enchères des biens mobiliers relevant du domaine privé, autorisation du principe et des modalités de cession. Donc la parole est à Gilles Rambaud.
Oui, donc nous avons au niveau de la mairie, au niveau du domaine privé de la mairie, donc un certain nombre de matériels que nous n'utilisons plus, donc que nous pouvons donc vendre. On vous a mis dans la délibération les matériels concernés. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais c'est les véhicules, les matériels roulants, les matériels informatiques, mobilier scolaire, etc. Et ce qu'on propose, donc, c'est de mettre ces matériels en vente aux enchères sur le service Agora Store. Alors, vous aviez dans les annexes les conditions de travail avec cette plateforme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils prennent une commission qui est actuellement de 15% avec un forfait minimum de 15 € hors taxe par facturation, qu'ils assurent la bonne fin de l'opération, c'est-à-dire qu'en fait le matériel est mis à disposition de l'acheteur que lorsque l'ensemble de la somme est payée, pour vous rassurer sur la bonne fin pour la mairie. Ça concerne pour cette délibération les matériels qui sont susceptibles de dépasser la somme de 4 600 €, donc au prix de la dernière enchère, en sachant que nous avions voté une délibération en décembre 2022 qui autorisait le maire à signer donc les ventes de biens mobiliers d'un prix unitaire n'excédant pas 4 600 €, en sachant que l'ensemble de ce que nous avons à vendre passera par cette plateforme. Hein. Et simplement, il faut qu'on délibère ce soir sur les biens qui dépasseront 4 600 €. Donc, on propose que le Conseil municipal approuve le mode de cession par mise aux enchères donc des biens mis à la réforme appartenant au domaine privé de la commune. Bon, vous avez la liste sur la délibération. Qu'on autorise donc les ventes des biens dans ce cadre dont la valeur est susceptible de dépasser le seuil des 4 600 € au prix de la dernière enchère. Et prend acte des termes du contrat cadre de prestation de vente aux enchères publiques proposé par Agora Store. Donc, c'est ce que vous avez dans l'annexe. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Alors, ensuite, donc, une délibération donc, qui concerne la culture avec une adhésion au réseau de Chénon, Pays de la Loire. Donc, la parole est à Fanny Lejalais.
La Fédération Chénon, Pays de la Loire, soutient la création régionale dans le domaine du spectacle vivant en matière de diffusion et de création. L'adhésion au réseau national du Chénon permet entre autres de participer à la tournée du Chénon et de bénéficier de tarifs négociés sur le prix des spectacles et de profiter des mutualisations sur les transports générés par les tournées entre adhérents. C'est pourquoi il est proposé au Conseil municipal d'adhérer à la Fédération régionale du Chénon Pays de la Loire et au réseau national Le Chénon pour un montant total de 400 €.
Petite précision, c'est en fait une régularisation puisque il y a plusieurs années que nous adhérons, enfin que la commune adhère à ce réseau et il n'y avait jamais eu de délibération. Donc voilà, donc, c'est une régularisation, une délibération purement technique. Néanmoins, si vous avez des questions ou demandes de précision. Non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc délibération adoptée pour une adhésion au réseau Le Chélon. Alors, nous allons passer donc... Toujours donc la culture. Donc une modification de la date d'application du tarif de la billetterie du théâtre Quartier Libre. Donc la parole est à Fanny Lejalais.
En effet, une nouvelle grille tarifaire pour 2023 a été adoptée ici par délibération 2023-030 du 28 mars 2023, mais la date d'application de ces tarifs de billetterie doit être modifiée. Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la date d'application des tarifs à compter du 16 juin, ouverture de la billetterie.
Peut-être annoncer les deux soirées la semaine prochaine.
Donc les 14 et 15 juin, vous êtes tous attendus au théâtre pour la présentation de la nouvelle saison culturelle qui va vous éblouir.
Donc il reste encore des places, mais ça se remplit très bien, donc c'est bon signe. Donc voilà, donc le 14 et 15, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Eh bien, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Alors, la délibération suivante donc, concerne l'éducation jeunesse. Donc la convention d'ingénierie préalable à la convention territoriale globale. Donc André Jean va tout nous expliquer.
Avec plaisir. Donc André Jean Viau pour la majorité. Donc le contrat enfance jeunesse signé entre la CAF et la commune est arrivé à échéance le 31 décembre 2022. Et la CAF nous informe cette année que ce contrat enfance jeunesse est remplacé par une convention territoriale globale, donc on va nommer ça la CTG. Et qu'à ce titre, cette convention devra être signée à l'échelle du territoire de la COMPA et aussi en partenaire avec toutes les collectivités qui ont en charge les compétences de petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité sur un tertier du territoire du pays d'Ancenis. Donc avec les différents codes de l'action sociale, celui du code général des collectivités territoriales et l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des caisses d'allocation familiale, et aussi, vu la convention d'objectifs et de gestion, dit COG, arrêtée entre l'État et les caisses, la Caisse nationale des allocations familiales, pardon, il y a eu une délibération en conseil communautaire de la communauté du pays d'Ancenis au 30 mars 2023, qui souhaite conclure une convention d'ingénierie préalable à la convention territoire globale avec les différentes collectivités du pays d'Ancenis, qui sont donc compétentes en matière de petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité. Et on a vu aussi en commission au niveau de la, avec les services au niveau de la ville d'Ancenis Saint-Girons, en commission scolarité, jeunesse, prévention le 7 juin 2023. Et donc, en considérant que l'évolution de la structure des communes, l'élargissement de la taille des intercommunalités, la mise en place des métropoles et la création de pôles territoriaux ruraux, qui structure un nouveau cadre de coopération entre les collectivités locales. Et considérant aussi que le contexte mouvant et contraint, la CAF souhaite redéfinir et conforter un pilotage d'un projet de territoire, que la présente convention en annexe vise à définir le prérequis de l'élaboration d'un projet stratégique global du territoire à l'égard des familles, ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Donc cette convention a pour objet de permettre le financement d'une mission d'accompagnement à l'élaboration de la CTG, selon le barème en vigueur dans le cadre du bonus territoire, de dresser un portrait social du territoire, donc du territoire du pays d'Ancenis, de réaliser un état des lieux et l'utilisation des différents services et dispositifs locaux, d'identifier les besoins prioritaires sur le territoire de la communauté de communes, s'agissant des quatre champs spécifiques que l'on a déjà nommé petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité, de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre et besoin, d'accompagner les élus dans la définition de leurs projets politiques en matière d'enfance, jeunesse, parentalité, dans la perspective de signer une CTG avec la CAF. Donc, il faut considérer qu'il y a lieu de signer cette convention d'ingénierie préalable à la convention territoriale globale. Cette convention est conclue pour 2 années à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu'au 31 décembre 2024. Et la suite fera que nous aurons une CTG au niveau du pays d'Ancenis. Donc il est proposé au vote d'approuver la convention qui a été jointe à la délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention d'ingénierie préalable à la convention territoriale globale pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Merci André Jean. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, allez-y.
Sarah Rousseau pour la minorité. La convention territoriale globale est une démarche pour construire un projet social de territoire. La CTG facilite le développement des services aux familles, mais elle permet aussi de questionner le fonctionnement des services existants et de mieux les mobiliser. Au-delà de cela, elle permet, au travers du projet de territoire, de flécher et de s'adapter à de nouveaux besoins et d'évoluer dans son périmètre. Aussi, nous nous étonnons de retrouver uniquement les quatre champs spécifiques que sont la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la parentalité. En effet, la convention territoriale globale inclut aussi l'accès aux droits, l'inclusion numérique, l'animation de la vie sociale, le logement, le handicap et l'accompagnement social. Pourquoi ne pas les inclure tout de suite dans le diagnostic et la future convention?
C'est les quatre champs qui sont obligatoires pour créer une CTG, pour écrire une CTG. Les autres chambres ne sont pas obligatoires, mais par contre, pendant cette période de 2 ans où il va y avoir ce diagnostic de territoire, chaque territoire va pouvoir, chaque collectivité va pouvoir mettre en plus, s'il en considère le besoin, les compétences optionnelles que vous avez nommées.
Ensuite, c'est vrai qu'il y a peu de contradictions en ce moment, puisque le gouvernement souhaite créer des services publics petite enfance communaux, alors que là, on nous demande d'avoir plutôt un service à l'échelle de l'interco. Donc, il y a quelques contradictions qui compliquent effectivement la réflexion. En tous les cas, nous restons extrêmement vigilants, parce que derrière, on sait qu'un des objectifs, c'est aussi de réduire les dépenses et les financements. Donc, il faut, je pense, être extrêmement vigilant par rapport à ça. Effectivement, ça peut apporter effectivement des solutions en termes de... Ah oui. Donc, en tous les cas, nous restons extrêmement vigilants, parce qu'on voit bien qu'il y a des contradictions actuellement. C'est vrai que si on... Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision? Non? À ouvrir les fenêtres.
On avait juste une demande, et on peut ouvrir une fenêtre, en fait.
C'est vrai qu'il fait chaud.
Il y en a une déjà ouverte.
Bien, allez, restons concentrés. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour cette convention d'ingénierie? D'ailleurs, on n'a pas trop le choix, effectivement. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Alors, les délibérations suivantes concernent l'approbation du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et zonage de pluviales, donc sans doute avant le transfert de compétences, normalement en 2026 à la COMPA. Donc la parole est à Bruno de Carguemaux, contrairement à ce qu'il est indiqué sur l'écran et sur la délibération.
Et bonsoir. C'est dit en abréviation SDAEP. Comme ça, voilà. Dans un souci du respect de l'environnement et de la réglementation, la commune a lancé un diagnostic et une réflexion globale sur l'assainissement des eaux pluviales sur son territoire afin d'établir un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales. L'étude s'est déroulée courant 2019-2020, donc ça date de quelques années. L'étude portait sur le système d'assainissement pluvial de la commune, le milieu récepteur et le zonage des eaux pluviales. Les deux plans locaux d'urbanisme des villes historiques d'Ancy et de Saint-Géréon étant concernés par des procédures de modification, il était décidé de réaliser des enquêtes publiques conjointes permettant d'approuver la modification numéro 3 du PLU d'Ancy historique et la modification numéro 6 du PLU de Saint-Géréon historique. Et donc, ce SDAEP. Ainsi, ce dernier est annexé directement aux deux documents d'urbanisme sans réaliser une procédure de mise à jour. Pour rappel, un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales est une étude d'orientation du système d'assainissement des eaux pluviales visant à connaître et comprendre son fonctionnement actuel, de déceler et expliquer les anomalies de fonctionnement et appréhender les impacts, évaluer les problèmes liés aux eaux pluviales et de ruissellement, appréhender par diverses approches les types d'aménagement les mieux adaptés pour pallier à ces dysfonctionnements, préparer l'avenir en proposant des actions, définir le projet de zonage des eaux pluviales conformément aux dispositions du Code de l'environnement. C'est donc un outil d'aide à la décision et de planification. Le zonage pluvial qui s'inscrit dans un contexte de changements environnementaux, raréfaction de la ressource en eau, inondation, répond à 3 objectifs principaux. Intégrer la problématique des eaux pluviales dans l'aménagement du territoire en respectant au maximum le cycle de l'eau, améliorer la gestion des eaux pluviales et encourager la gestion intégrée des eaux pluviales. Le dossier du schéma directeur de l'assainissement des eaux pluviales et des zonages des eaux pluviales est annexé à la présente délibération. Il comprend un état des lieux, le dossier de régularisation des réseaux d'eau pluviale et le plan des réseaux d'eau pluviale. Je vous rappelle que ce dossier il fait à peu près 130 pages. Le dossier complété des avis des personnes publiques associées et de l'autorité environnementale a été soumis à enquête publique du 23 janvier 2023 au 22 février 2023 inclus. La commissaire enquêtrice a rendu son rapport et ses conclusions le 28 mars 2023 avec un avis favorable au projet de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et des zonages des eaux pluviales. Je vous passe sur tous les vues du code général, code civil, etc. Donc ça a été aussi présenté pour avis aux deux commissions concernées. Et donc considérant que la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable à l'ensemble du dossier de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de zonage des eaux pluviales, considérant que suite à l'avis défavorable de la COMPA, des échanges ont eu lieu entre les deux collectivités, et qu'il a été décidé d'intégrer le zonage pluvial uniquement comme annexe au 2 PLU. Que la mention relative à la protection des zones humides au niveau du zonage pluvial a été retirée, que les propositions relatives à la prise en compte uniquement de la surface imperméabilisée projetée et la prise en compte de la surface imperméabilisée de l'extension et de l'existant à l'échelle de l'unité foncière sont intégrées au projet de zonage pluvial. Il est proposé que le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et le zonage pluvial associé sur la base du dossier annexé à la présente délibération modifiée pour tenir compte de l'avis de la communauté de communes du pays d'Ancy.
Merci Bruno. Est-ce qu'il y a... Oui. Allez-y. Allez-y.
Monsieur le maire, il est dit dans l'annexe 1 de la présente délibération que suite aux remarques de la COMPA lors de l'enquête publique, jugeant trop prescriptif et source de difficultés d'application sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, bon, etc., je ne mets pas tout le texte, la COMPA a émis un avis favorable, monsieur de Corgomo vient d'en parler, à l'intégration du zonage pluvial dans les règlements du PLU. L'application du zonage pluvial sera rendue plus souple dans la mesure où il ne sera intégré que comme annexe au PLU. Ce qui nous amène à poser la question suivante. Comment envisage-t-on de promouvoir la gestion durable des eaux pluviales, la réduction des risques d'inondation, la préservation de la qualité de l'eau, de favoriser un aménagement urbain plus résilient en protégeant les écosystèmes naturels, les terres agricoles, tout en évitant d'intégrer le zonage aux dispositions réglementaires du PLU?
Parole est à Bruno.
Oui, c'est exact. Et c'est bien dommage qu'il y ait eu un avis défavorable de la COMPA. Nous le regrettons. C'est bien pour ça que je l'ai bien mentionné. Il y a eu des négociations avec les services, entre nos services et les services de la COMPA, pour aboutir à un accord qui n'est pas forcément optimum, mais ça permet quand même qu'à ce moment-là, la COMPA a donné un avis favorable aux deux modifications de PLU, les PLU d'Ancenis historique et les PLU de Saint-Gérard, sinon c'était refusé.
Oui, ça bloquait tout le reste.
Je n'avais juste pas tout à fait fini.
Pardon. Effectivement, moi je trouve dommage effectivement que le seul avis défavorable vienne de la COMPA, alors que toutes les personnes associées avaient donné un avis plutôt favorable. Et ce que je regrette, c'est qu'on l'a eu par courrier sans avoir un échange préalable ou un échange politique préalable. On a eu cet échange après, donc voilà, mais c'est vrai que la position de la COMPA était ferme, considérant qu'effectivement ça pouvait contraindre le développement, notamment économique. Bon, alors que la DDTM avait plutôt donné un avis favorable, très favorable justement, à la gestion de l'eau à la parcelle, donc c'est effectivement un contresens.
Oui, et puis en plus, on le voit bien avec le SRADET qui est en cours, le SCOT qui arrive. Enfin, du coup, je continue juste mon propos, mais j'ai presque la réponse. Donc, je voulais juste ajouter, pour protéger la ressource en eau, il faut savoir s'en donner les moyens, et c'est également l'affaire de tous sur le territoire. À ce jour, la COMPA n'a pas pris la compétence eau pluviale et eau potable, parce que ce n'était pas obligatoire pour une communauté de communes. Pour agir largement sur la sobriété, la protection de la ressource en eau qui se raréfie, une réflexion à l'échelle du pays d'Ancenis nous semble opportune. Comme vous l'avez si bien dit dans la presse Ouest-France du 15 mai, la transition écologique, ça commence à l'échelon local. Aussi, monsieur le maire, pouvez-vous nous informer si vous souhaitez interpeller vos collègues de la COMPA pour que la compétence assainissement intègre également celle des eaux pluviales et de l'eau potable?
Alors oui, donc c'est prévu en 2026. Donc voilà, mais je réaffirmerai effectivement, nous, notre volonté, et vous l'avez très bien exprimé, et on partage complètement votre position sur d'aller plus loin dans la préservation de la ressource et d'avoir une gestion pas seulement petit cycle de l'eau, mais grand cycle de l'eau. Parce que sinon, autrement, on n'y arrivera pas dans la gestion de la ressource. On voit bien encore, et on peut sentir encore les choses cette année, où on va vers des difficultés en termes d'irrigation et de consommation en eau, même si les nappes phréatiques se sont reconstituées. Néanmoins, la gestion de l'eau à la parcelle et la préservation des zones humides sont essentielles. Malheureusement, les zones humides ont disparu, ont été divisées par deux depuis 1970, malgré donc l'accord de Ramsar. Et quand une zone humide disparaît, c'est aussi beaucoup de biodiversité en moins, essentielle aussi pour l'équilibre, notre équilibre. Donc voilà, donc en tous les cas, c'est le message qu'on portera, soyez-en sûrs.
Je voudrais rajouter quand même que, effectivement, c'est un document qui va être en annexe des deux PLU. Or, il faut savoir quand même que c'est la commune, donc le maire ou son représentant, qui accorde ou non les permis de construire. Et donc, on va faire très attention, comme l'on fait attention aujourd'hui à ce problème, également le problème de conservation des haies. Je peux vous dire qu'on a déjà refusé un permis de construire en zone économique parce que ça détruisait des... Et donc, voilà, le professionnel a refait son permis de construire pour que la haie soit préservée. Donc, on fait, malgré tout, on fait quand même attention à tous ces problèmes d'environnement au niveau de la commune, puisque c'est quand même les communes, en dernier lieu, qui délivrent les permis de construire.
Mais c'est pas vous que je cherchais pas, on est d'accord. C'est juste qu'on parle tous d'être vertueux, on voit bien que c'est le thème de l'année, l'eau. Et donc si on s'en donne pas les moyens à travers les documents réglementaires, comment on fait? C'est au moins un des outils sur lequel on peut vraiment foncer, quoi.
Mais l'exemple que Bruno cite effectivement sur un projet donc d'un acteur économique qui au départ, mais parce qu'il n'avait pas pris la mesure de cet arrachage, donc on a échangé avec lui et effectivement elle a retravaillé un projet qualitatif et validé par donc un écologue, comme quoi la protection de l'environnement et le développement économique ne sont pas incompatibles. Donc voilà, donc il faut faire changer les mentalités. Certes, c'est plus, malheureusement ça ne sera pas une obligation, mais dans le cadre des instructions on poussera très largement à faire en sorte que effectivement les pétitionnaires puissent gérer leurs eaux pluviales à la parcelle. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non. Je vous propose donc de passer au vote. Donc, qui est pour l'approbation de ce schéma directeur d'assainissement et des eaux pluviales? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc, deux abstentions. Et puis, qui est contre? Donc voilà, donc deux abstentions, sinon donc pour. Alors, la délibération suivante porte sur donc la modification numéro 3 du PLU d'Ancenis. Donc la parole est à Bruno de Kergomo.
La présente délibération a pour objet d'approuver la modification numéro 3 du PLU de la commune historique d'Ancenis. Elle porte à la fois sur le règlement écrit, le règlement graphique, les zonages, les orientations d'aménagement et de programmation, dites OAP, et les annexes. Le PLU de Ancenis historique a été approuvé le 28 avril 2014 et modifié à cinq reprises fait l'objet d'une révision allégée et d'une mise à jour. La présente modification numéro 3 a pour principaux objectifs la modification d'OAP et la création de nouvelles OAP concernant l'ajustement de l'OAP Urien-Rieux à vocation résidentielle, l'ajustement de deux OAP à vocation d'activité économique, la Fouquetière et Hermitage-la-Planche, la prise en compte de nouveaux potentiels de renouvellement urbain sur l'îlot Herriot-Châteaubriand et le quartier Fresnes au pavé, des adaptations du règlement graphique et du règlement écrit pour intégrer les dispositions spécifiques au lotissement de la Chauvinière, améliorer le document d'urbanisme et tendre vers davantage de convergence avec le PLU de la commune de Saint-Géréon historique, et intégrer des dispositions génériques relatives à la gestion des eaux pluviales. La mise à jour des annexes avec l'intégration du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de nouvel arrêté préfectoral du classement sonore des voies bruyantes. Le dossier modification numéro 3 est annexé à la présente délibération. Vous avez tous en prendre connaissance. Le dossier complété des avis des personnes publiques associées et de l'autorité environnementale a été soumis à l'enquête publique du 23 janvier 2023 au 22 février 2023 inclus. La commissaire enquêtrice a rendu son rapport et ses conclusions le 28 mars 2023 avec un avis favorable au sujet de toutes les évolutions envisagées. Je vous passe également toutes les vues, plan local d'Isermis, l'autorité environnementale, etc. Et vu l'avis de la commission municipale d'urbanisme, nature en ville et affaires foncières du 4 avril 2023, et considérant que la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable au sujet de toutes les évolutions envisagées, ainsi que toutes les autres personnes associées, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver cette modification numéro 3 du plan local d'urbanisme d'Anceny sur la base du dossier annexé à la présente délibération. Et autorisé, monsieur le maire et ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
Merci Bruno. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Oui, allez-y.
Monsieur le maire, lors de la séance du conseil municipal du 6 février, où vous étiez absent et remplacé par la première adjointe, à l'occasion de la délibération 2023-002, j'avais interrogé Madame Loira afin de savoir à quel moment serait planifiée la révision du PLU d'Anceny-Saint-Géréon, c'est-à-dire le document d'urbanisme de la commune nouvelle, permettant de doter la commune nouvelle d'un seul et même document d'urbanisme et de soutenir le développement des logements sur notre territoire. Madame Loira m'a répondu que si nous n'en avions pas entendu parler, c'est que cela n'était pas à l'ordre du jour. Du coup, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est du planning envisagé pour la révision du PLU, tenant bien compte du calendrier du SCOT? On sait que ça dérape. Mais...
Ben justement, donc on va s'adapter avec le planning du SCOT, sachant que par ailleurs, avant la fin du mandat, on aura d'autres modifications à apporter au PLU d'Anceny et Saint-Géréon, et notamment par rapport à toute la réflexion que nous menons sur le quartier Moutel-Corderie, quartier Gare. Il y aura un certain nombre de modifications sur l'approbation d'un nouveau PLU. Il faudra qu'on y aille, hein, parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'avoir deux PLU pour une seule et même commune nouvelle, c'est pas forcément opérationnel. En tous les cas, il y a des différences donc, qu'il faut gommer. On va lancer l'étude ou la réflexion fin du mandat ou début du mandat, de façon à ce qu'on se cale après avec le SCOT, pour être sûr qu'il soit conforme au SCOT.
Alors, vous avez mangé ma deuxième question, puisqu'effectivement, on peut constater que le secteur gare et Moutel-Corderie ne figurent pas dans la modification numéro 3 de Anceny. Et donc, la question était quand est-ce que la modification numéro 4 sera en cours? Pour revenir juste sur la révision du PLU, effectivement, c'est horizon un PLU fini en 2029. On est à peu près dans ces eaux-là. Mais en fait, tout le monde va faire ça parce qu'on est tous au taquet. On attend tous le résultat du SRADET, SCOT et de... Et en fait, pour avoir les meilleurs bureaux d'études, peut-être qu'on peut se permettre de lancer une consultation, mais pas trop tard, quoi.
Oui. Après, il y a aussi, certes, les bureaux d'études, mais il y a aussi tout le travail des services. et c'est aussi la capacité à faire des services, sachant que nous avons lancé beaucoup d'études. Donc, concernant la gare, notre objectif, c'était de valider le plan guide avant l'été, sauf qu'on est vraiment sur un dossier extrêmement complexe. D'ailleurs, quand on écoute Loire-Atlantique Développement qui nous accompagne, c'est un des dossiers les plus complexes qu'ils gèrent, eux, aujourd'hui, à l'échelle du département. Et je crois qu'on n'a pas perdu notre temps, puisque, effectivement, dès 2020, donc, nous avons lancé donc, les différentes études, notamment environnementales, puis donc retenu donc master plan qui donc a travaillé sur la base aussi de concertation, parce que c'était important pour nous effectivement qu'on puisse concerter, donc pour arriver à un plan guide qui était pratiquement finalisé, sauf que depuis donc il y a eu donc des velléités d'un investisseur important et bien connu sur Ancenis Saint-Gérian qui souhaite effectivement construire des bureaux pour 250 salariés. Donc il faut qu'on voit comment effectivement on imbrique ou on intègre ce projet d'importance pour l'entreprise et aussi pour le centre-ville et la ville, la commune d'Ancenis-Saint-Gérion. Donc comment effectivement on fait en sorte que ça puisse s'insérer dans le plan guide. Donc c'est la raison pour laquelle là on a perdu un peu de temps. Et puis dernièrement, suite à l'annonce du président pour souhaitant donc la création de 10 RER métropolitains. Il se trouve que la région Pays de Loire et Nantes ont déposé leur candidature pour un RER métropolitain nantais, avec comme gare donc concernée donc celle d'Ancenis, de Nord-sur-Erdre, Sainte-Pazanne, Saint-Venet, Sainte-Pazanne, Clisson et bien sûr Nantes. Et donc il y a deux gares qui aujourd'hui sont en capacité d'accueillir donc le RER, c'est Savenay et Ancenis. Donc on peut penser que dès 2030, on puisse donc multiplier ou augmenter donc les fréquences de train. Nous avons rencontré donc dernièrement la SNCF, parce que moi j'ai alerté la Compa, hein, parce que là on voit bien qu'il faut qu'on l'intègre dans notre plan guide, hein, l'arrivée du RER, parce que ça a forcément un impact sur le développement du quartier, mais aussi du Pays d'Ancenis. Ça re-questionne donc les mobilités à l'échelle du Pays d'Ancenis et du bassin de vie. Donc nous avons pris l'initiative de rencontrer donc en présence de Jean-Yves Ploteau, vice-président en charge des mobilités à la Compa, donc, nous avons rencontré donc les représentants de la SNCF qui nous ont bien confirmé effectivement que aujourd'hui nous sommes à 98 TER. En 2030, il est prévu 120 TER. On passera de 1 250 000 voyageurs à 1 500 000 voyageurs. Donc c'est quand même plus 20%. Donc comment effectivement on stocke les véhicules si les voyageurs continuent à venir en voiture? Donc il y a une vraie question de mobilité. Et puis en 2050, il est prévu pratiquement 170 TER par jour, de 5 heures à plus 20 heures et voire plus 22 heures et minuit. À raison d'un train toutes les demi-heures ou toutes les heures. Et donc, pour arriver à 1,8 million en 2050. Donc ça, si on n'intègre pas ça sur notre plan de guide, on ferait une erreur. Donc c'est la raison pour laquelle on a préféré ne pas valider le plan guide avant l'été, attendre, et donc on va re-rencontrer, et on va mettre autour d'une table master plan tous les acteurs donc concernés par ce projet, la Compa, la région, pour qu'on puisse effectivement définir les besoins et comment intégrer ces nouveaux besoins là qui viennent d'être connus dans le plan guide. Et puis pour Corderie-Moutel, donc l'objectif c'est que effectivement on lance une enquête publique avant la fin d'année. Il faut qu'on retravaille avec les commerçants des arcades, puisque effectivement il y a à la fois des commerçants qui sont prêts à aller dans le sens de ce qu'on propose, et puis d'autres qui se questionnent, qui s'interrogent. Si, Séverine, j'ai eu des retours. J'ai eu même un commerçant samedi avec qui j'ai échangé. Donc, il faut retravailler, il faut effectivement travailler avec eux. On ne fera pas sans eux, de toute façon. Et c'est la raison pour laquelle il y a différents scénarios que l'on va travailler avec eux. Donc, il faut prendre un peu ce temps-là, forcément, pour valider ce plan guide, pour qu'ensuite on passe à une OAP qu'on devrait passer en enquête publique donc après l'été, et puis avec l'objectif de valider avant la fin d'année.
Alors, je vous remercie pour toutes ces explications. C'est plutôt intéressant d'avoir posé quelques questions pour avoir tout ça. J'espère que l'enregistrement a bien fonctionné, parce que comme je suis secrétaire de séance, je n'ai pas eu le temps de tout noter. Juste une autre question. Du coup, l'OAP Moutel-Corderie est, on peut le penser, concerné, en fait, par ce que vous venez de dire vis-à-vis de la gare, des futurs arrêts. Donc, il pourrait y avoir, en fait, une zone, peut-être, en interrogation dans l'OAP, je ne sais pas comment ça peut se faire, de telle manière à se réserver la possibilité d'agir dans le futur.
Alors, de toute façon, on va travailler en commission. Alors, ça sera une commission mixte avec le COPIL. Oui, on peut penser qu'effectivement, ça a un impact sur l'aménagement Corderie-Moutel. Néanmoins, on était parti plutôt sur le fait d'éviter que ce quartier accueille des voitures des voyageurs, de façon à pacifier le quartier et plutôt inviter ceux qui prennent la voiture pour arriver en gare de plutôt se garer sur le quartier sud, donc le quartier gare, avec des infrastructures qui le permettent, notamment on parle de parking hybride, donc utilisé par les voyageurs la journée et puis par les habitants du quartier la nuit. C'est aussi travailler sur des parkings silos. Donc ça, tous ces points-là, nous avons commencé à l'aborder avec le représentant de la SNCF, qu'on va aussi remettre sur la table quand on va les rencontrer. Parce que derrière, c'est aussi du financement. Donc qui porte le financement? Il y a sûrement du cofinancement. Et c'est aussi pour ça, et après la rencontre avec les différents acteurs, je solliciterai et j'enverrai un courrier à Nantes Métropole et à la région pour de façon à ce qu'on soit aussi autour de la table. Parce que le RER métropolitain, ce n'est pas l'affaire que de la métropole, ce n'est pas l'affaire que de la région, mais c'est aussi l'affaire des intercos, donc en l'occurrence le Pays Nancenis, et l'affaire des communes où les gares seront desservies par le RER. Donc voilà, donc, c'est intéressant parce que là, il y a plein de choses qui arrivent là, qu'il faut intégrer. Mais c'est ce qui rend intéressant ces projets. Bien. Alors, c'est beaucoup d'informations parce que, ça se précipite. Donc, tout ça, ça sera effectivement, on aura l'occasion d'échanger en commission. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote, qui est pour la modification numéro 3 du PLU, qui s'abstient, qui est contre. Modification approuvée à l'unanimité. Merci. Et donc, le dernier dossier concerne la modification numéro 3 du PLU de Saint-Géréon. Bruno de Carlomo.
Non, c'est le 6. C'est le 6, le 3, mais c'est marqué 3, mais c'est le 6. Parce que le PLU de Saint-Géréon est bien plus ancien que celui de Ancenis historique, puisqu'il date de 2007. Donc je n'ai pas à lire l'introduction, puisque tout est dit. Cette présente modification a pour objectif principal d'ajuster trois OAP, le préhaussé rue Chopin et Victor Hugo, et d'en créer de nouvelles, Babomètre, Chevannerie-Drapeau, Le Clos-Géréon et Sensif-Montagne. Plus mise en place d'emplacements réservés, le règlement qui évolue également, comme je l'ai dit, pour le PLU d'Ancenis historique, pour ajuster au fur et à mesure les deux PLU, pour faciliter la tâche des personnels de l'urbanisme. Voilà. Donc le dossier de modification numéro 6 est annexé à la présente délibération. Il comprend la notice de présentation détaillée du projet, dont l'évaluation environnementale, les annexes à la notice avec les nouvelles OAP et les OAP ajustées, le règlement écrit, l'annexe au règlement, le règlement graphique, etc. Le dossier complété des avis des personnes publiques associées et de l'autorité environnementale a été soumis à l'enquête publique du 23 janvier 2023 au 22 février 2023 avec les deux autres. La commissaire enquêtrice a rendu son rapport et ses conclusions le 28 mars 2023 avec un avis favorable au sujet de toutes les évolutions envisagées, sauf pour la mise en place de l'OAP Babomètre, pour laquelle elle a émis un avis défavorable suite à l'avis de la communauté de communes. Vu l'avis de la Commission municipale d'urbanisme, nature en ville et affaires foncières du 4 avril 2023, considérant que la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable au sujet de toutes les évolutions envisagées, sauf pour la mise en place de l'OAP Babomètre, pour laquelle elle a émis un avis défavorable et qu'il est par conséquent nécessaire de motiver le choix de maintenir la mise en place de cette OAP, ce qui a été fait. Considérant à cet égard qu'il convient de relever que l'avis de la commissaire enquêtrice se fonde sur l'avis de la COMPA, cette dernière sollicite le retrait de cette OAP au motif que ce secteur est inclus dans le périmètre du plan guide de l'espace 23 réalisé par la COMPA et qu'il apparaît prématuré de faire évoluer le zonage et de créer une OAP en l'absence de traduction de la réflexion globale sur l'espace 23 dans le PU. La COMPA met en avant le risque que ce secteur ne permette pas d'accueillir de manière pérenne certaines activités aujourd'hui présentes au sein de l'îlot localisé à l'entrée est de l'espace 23, remettant en cause la possibilité de reconversion de cet îlot. Considérant que le sujet relevé par la COMPA, sur lequel s'appuie la commissaire enquêtrice, concerne davantage la mise en œuvre opérationnelle et non pas le PLU en tant que tel, la commune rappelle à ce propos qu'elle est propriétaire d'une partie des terrains directement concernés par l'OAP Babomètre et qu'elle sera vigilante à la programmation des activités de service, notamment par la possibilité de recourir à un cahier des charges de cession des terrains. Considérant que la recherche de davantage de mixité habitat-activité prévue par l'OAP Babomètre va dans le sens des objectifs de sobriété et d'optimisation foncière du ZAN de la récente loi climat-résilience, considérant que le besoin de logement sur la commune telle que la ville ne peut aujourd'hui se permettre de différer davantage dans le temps ce type d'opération destinée à répondre concrètement aux besoins d'une partie de la population, considérant que le report d'intégration du reste du plan guide de l'espace 23 au PLU n'empêche nullement la collectivité d'anticiper sa mise en œuvre par des actions foncières adéquates. Considérant que les arguments développés ci-dessus justifient le maintien de l'AOP Babomètre tel que proposé dans le cadre du projet de modification numéro 6 du PLU soumis à enquête publique. Il est donc proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver cette modification numéro 6 du PLU et d'autoriser M. le maire et son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en place de cette décision.
Merci Bruno. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, prise de parole? Non. Avant de vous proposer donc, de voter, moi je voudrais quand même remercier donc, l'ensemble des services, l'ensemble des élus de la commission, notamment aménagement, hein, donc, qui ont travaillé depuis 2 ans sur la modification du PLU. Remercier aussi le bureau d'études qui nous a accompagnés durant ces 2 années. Comment ? Eh bien oui, les élus de la commission. Hein, donc voilà. Donc c'est un travail important et qui était nécessaire pour donc libérer du potentiel de construction, hein, tout en gardant une qualité de cadre de vie des habitants. Et je sais que les élus qui ont participé à la commission étaient très attachés donc à cette nécessité. Et puis moi, je voudrais aussi souligner l'esprit très constructif des habitants lors des temps de concertation. Moi, j'ai été surpris et agréablement surpris de voir que la plupart ont compris la nécessité du renouvellement urbain, le fait de ne pas donc faire d'étalement urbain, de préserver les zones agricoles, et puis aussi cet esprit de sens public, d'esprit effectivement de partage, en disant ben, nous, on a eu la chance à un moment donné de pouvoir habiter à Ancenis, et bien aussi donnons les possibilités à des futurs habitants de venir donc bénéficier du cadre de vie de notre commune. Donc je crois que c'est important effectivement de souligner cet esprit constructif des habitants. Ainsi, avec ce travail, avec ces différentes modifications du PLU, avec le travail important engagé, on vient d'en parler, hein, sur le quartier gare, dont le plan guide est en cours de finalisation, avec la réflexion menée aussi sur la requalification du quartier Moutel-Corderie, avec aussi l'appel à projet que nous avons lancé sur le projet Champ du Boulin, l'ancien site du cinéma, avec aussi le lancement des premières études sur les 30 hectares situés donc à la Gillarderie, et puis aussi avec la rédaction d'un plan guide opérationnel dans le cadre de l'appel à manifester d'intérêt, cœur de ville, cœur de bourg, initié par le département. Tout cela accompagné donc de la charte donc de l'urbanisme vers une ville nature plus compacte et plus accueillante, hein, que nous avons validé en conseil municipal du mois de décembre, eh bien, nous avons là aujourd'hui une boîte à outils qui nous permet de mieux appréhender le développement de notre ville, d'avoir une vision précise de la ville future, tout en tenant compte des enjeux et des nombreux défis que nous avons à relever, et de proposer maintenant donc aux promoteurs et aux porteurs de projets d'élaborer de nouveaux projets urbains innovants. Alors on voit qu'effectivement il y a un tassement des projets, hein, lié à l'inflation, c'est général dans toutes les collectivités malheureusement. Donc ce travail important et intense est d'ailleurs reconnu à l'extérieur, puisque nous avons été sollicités dernièrement par une métropole, hein, pour organiser en septembre prochain un séminaire dans notre commune à destination des agents de la direction stratégie et territoire de cette métropole, hein, pour s'approprier de nouvelles stratégies de planification et de transition urbaine, mais également aussi en faisant un pas de côté territorial, en venant ici en Cenis-Saint-Jaon pour effectivement échanger sur notre vision des choses en matière d'urbanisme. Donc c'est aussi une vraie reconnaissance. Et puis cette reconnaissance, nous l'avons eue aussi lors de ma rencontre avec le nouveau sous-préfet, qui là aussi a reconnu le travail engagé en matière de planification et de transition écologique dans les documents d'urbanisme. Donc voilà, une nouvelle fois, moi je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de tous ces documents et qui vont continuer encore, parce qu'il y a encore du travail, dans les prochains mois. Donc voilà ce que je souhaitais dire, moi, suite à ces présentations et ces deux modifications du PLU, et puis aussi le schéma sur les eaux pluviales. Donc voilà, je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc délibération votée à l'unanimité. Avant de passer aux décisions, je voulais vous faire part d'une information, puisque là aussi ça va très vite. Quand nous sommes arrivés en 2020, nous avions fait le tour de notre patrimoine, notre riche patrimoine, et quand nous sommes passés au relais de poste, nous avons effectivement émis des doutes quant au problème de sécurité et de structure. Donc on a engagé des études de structure, et nous avons eu les résultats il y a maintenant un mois à peine, va nous obliger à fermer le bâtiment du relais de poste de par des problèmes de structure qui soutiennent les planchers. Aujourd'hui, les structures ne peuvent soutenir que le poids des planchers. Donc au-dessus, il y a des instruments, il y a des peintres, il y a des musiciens. Et ils ne nous ont pas dit quand ça allait tomber, hein, ils ne nous ont pas dit que demain ça allait tomber, mais bon, au vu des résultats du diagnostic, nous sommes responsables aussi, il est préférable de fermer ce bâtiment qui est en très mauvais état, hein, faute d'entretien. Nous avons proposé une solution pour ces quatre associations utilisatrices de cette partie-là du relais de poste, l'ancienne trésorerie, qui est située à côté du lycée JBE, que nous avions, qui a été libéré par la trésorerie en début d'année, mais que nous avions gardé pour proposer à la vente pour le lycée, pour répondre aussi à des besoins de nouvelles formations. On n'avait pas signé de contrat ou d'engagement, c'était un engagement moral. Donc on a rencontré le président, la présidente, pardon, et puis le directeur, qui ont compris qu'effectivement là il y avait quatre forces majeures, et puis qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts pour créer ces nouvelles formations. Pas plus tard que mercredi soir, nous avons rencontré les quatre associations pour leur dire que fin août, nous on souhaite fermer, pour des questions de responsabilité. Et on fait une première visite des locaux qui sembleraient leur convenir. Maintenant, il va falloir effectivement faire des aménagements, etc. Et puis, nous allons proposer, et c'était prévu aussi, à l'harmonie municipale aussi, puisqu'ils sont aussi dans des bâtiments ou dans un local qui n'est quand même pas adapté pour notamment les instruments. Hein, donc on les rencontre la semaine prochaine. Et puis on va travailler avec eux pour leur installation, sachant que c'est un peu moins grand que le relais de poste. Donc il va falloir travailler et s'organiser autrement, on leur a dit. Hein. Peut-être qu'ils ont, enfin on leur a dit que s'ils avaient d'autres solutions, ils pouvaient aussi les explorer. Bon, je pense que c'est notre seule solution et je crois que c'est leur seule solution. Donc voilà, on vous en dira un peu plus quand effectivement on aura avancé avec eux. Mais pour une ouverture plutôt 1er septembre. Donc voilà, donc c'est les informations que je souhaitais vous passer aujourd'hui en conseil municipal. Bien, oui, Jean-Noël.
Alors, je comprends bien donc le problème qu'il y a au niveau structurel et de la sécurité qui oblige à fermer le bâtiment. On va le fermer et puis après.
Alors après, ça fera l'objet d'une discussion entre nous en commission. Hein, voilà. Est-ce que effectivement on le restaure? Et si on le restaure, pourquoi faire? Ou est-ce qu'on le vend? Voilà. Donc il faut rien s'interdire là aujourd'hui. Hein. Voilà. Moi, l'urgence aujourd'hui, c'est de fermer pour des raisons de sécurité. Donc on aura l'occasion effectivement d'échanger sur le devenir de ce bâtiment, sachant quand même qu'on a aussi pas mal de bâtiments. On a aussi le château à rénover. Donc il ne faut pas qu'on se disperse. On n'aura pas forcément les moyens de tout rénover. Donc voilà, donc il y aura des choix à faire. Donc voilà. J'ai plombé la. les associations Arpège, Bouffée d'art, Inoc Nido et l'atelier. Plus l'harmonie municipale, si on peut effectivement loger tout le monde. Bon, on ne les a pas identifiés en tout cas. Concernant les décisions, est-ce qu'il y a des demandes de précision? Non? Bon. Bah, écoutez, je vous propose de lever le camp. Donc merci pour votre présence et puis pour ces échanges. Et puis je vous souhaite donc un bon week-end et n'oubliez pas la fête de la musique demain. Et il faut signer le PV. Tout le monde doit signer le PV? Non, le bureau.